l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Les voix de Strass présentent Eve, Empower Vocal Emancipation, donner de la voix à l'émancipation, une aventure qui réunit le chœur strasbourgeois, les voix de Strass et les chanteuses du chœur amateur de l'université de Chittagong du Bangladesh. Pour nous en parler, la directrice des voix de Strasbourg, Catherine Bolzinger, à propos de son ensemble. Et dans la deuxième partie de l'interview, vous retrouvez Selvam Torres, conseiller spécial de l'université de Chittagong. Écoutons Catherine Bolzinger.
Voix de Strass est un ensemble de 6 chanteuses professionnelles avec lequel je mène des actions musicales à dimension engagée. C'est-à-dire qu'on porte un propos à travers nos concerts. Pour moi, je suis convaincue que la culture n'est pas juste un élément décoratif, mais a une fonction très forte à tenir de lien entre les gens.
Alors, d'où l'idée de faire participer des jeunes femmes, vous le disiez, une formation à humanité augmentée. Expliquez-nous.
Oui, j'ai été sollicitée par cette université, Asian University for Women, pour faire quelque chose avec elle. Au départ, il y avait un chœur dans cette université, ils m'ont proposé de faire une masterclass, ce que je n'avais pas envie de faire. J'ai proposé au contraire de construire un projet avec elle à partir de chansons collectées auprès d'elle et de faire venir quelques-unes de ces chanteuses à Strasbourg et pour faire une semaine de résidence de travail à partir de la musique issue de leurs chansons, une véritable rencontre musicale. Et donc, c'est ce que nous avons fait cette semaine.
Le répertoire, pas uniquement des chansons traditionnelles françaises, européennes, bien au-delà, vous avez pioché dans les répertoires du monde musical de chacune de ces jeunes filles.
Il y a 23 nationalités de toute l'Asie dans cette université, donc c'est considérable. Et là, nous avons collecté une dizaine de chansons qui viennent du Bangladesh, du Népal, de Cambodge, d'Inde, de Timor oriental, je dis de mémoire, donc je cherche un petit peu. Je les ai confiés à un compositeur pour qu'il en crée une musique à partir de ces chants. Donc ces chants, d'une certaine façon, je dois dire, c'est ni de la musique asiatique, puisque ce compositeur est français, ni de la musique française, puisque le point de départ est asiatique. C'est ça que j'appelle l'humanité augmentée. Et ce que j'appelle aussi l'humanité augmentée, c'est le fait de chanter à côté de quelqu'un d'autre. Quand vous chantez à côté de quelqu'un d'autre, votre relation à cet autre est complètement transformée par le chant et vous créez une humanité qui vous prolonge. Vous partagez celle de l'autre et ça crée cette humanité augmentée.
L'idée, c'est de donner également des moyens à des jeunes femmes issues de milieux très modestes, du Bangladesh par exemple, de leur donner les moyens de prendre leur vie en main et de se retrouver à des positions dans ce pays-là, précisément, à des positions de leadership.
Absolument. Ça, c'est la mission d'abord de l'université elle-même qui les forme et qui les envoie faire un master ensuite en Europe. Mais j'ai trouvé personnellement, quand je les ai rencontrées, qu'elles étaient relativement entravées dans notre relation parce qu'on ne se connaissait pas. Et aussi parce qu'elles n'avaient pas forcément une fierté de leur culture. Et c'est donc ça que j'ai voulu leur donner la main pour qu'elles puissent avancer sur ce chemin. D'une part, la fierté de leur culture à travers la collecte des chansons. Et ensuite, le fait de les inviter ici à Strasbourg et de faire la musique avec elles, de les intégrer au programme avec les chanteuses de voix de Strasbourg qui sont quand même des professionnelles alors qu'elles ne sont pas du tout, ça les porte en fait, ça leur fait prendre, on trouve les points de commun, on arrive à s'affirmer soi-même en acceptant aussi les limites qu'on a. Et du coup, j'espère qu'elles gagneront en confiance. Et je pense que la confiance qu'on a en soi-même peut faire beaucoup de choses ensuite dans le parcours.
3 jeunes femmes qui sont arrivées ici à Strasbourg ne connaissaient pas du tout les villes européennes. Comment est-ce qu'elles ont perçu, comment elles ont accueilli toutes ces nouveautés ?
Elles sont déjà tout le temps avec leur téléphone en train de tout filmer. On est rentré l'autre jour dans une boulangerie. Elles ont dégainé le téléphone, on n'a jamais vu ça. Ensuite, quand elles sont arrivées à la gare, elles sont arrivées à 23h57. Donc il faisait froid, il faisait nuit et c'était silencieux. Et ça, c'était tout l'inverse que moi, quand je suis arrivée à Chittagong au mois de juillet dernier, il faisait une chaleur incroyable, il y avait du bruit du monde partout, de la poussière. Donc là, pareil, elles étaient complètement... En fait, elles sont tout le temps en train de filmer et d'absorber. Et de temps en temps, alors ça c'est une chose que j'aimerais bien vous raconter, on a fait une semaine de résidence et c'était important pour moi qu'elles qu'on cuisine ensemble. Parce que je pense que quand on cuisine, il se passe pas mal d'échanges aussi culturels et personnels. Et je voulais aussi inverser les rôles. Donc, comme elles sont de bonnes cuisinières, j'aurais proposé qu'elles soient elles les chefs. Et moi, je suis devenue leur apprentie ou les autres chanteuses qui étaient là pour cuisiner. Donc, on s'est régalé. Mais en plus, c'était très sympathique comme moment. Mais bon, après, comment tailler le gingembre, couper l'ail, voilà.
Donc, au-delà de la relation que vous avez à l'intérieur d'un cœur, c'est une relation humaine et elle aussi, ça leur ouvre de façon infinie leur univers et ça leur permet de prendre des contacts ici à Strasbourg ou sur tous les endroits que vous allez traverser lors de cette tournée.
Oui, tout à fait. Alors, elles ont des disciplines universitaires, des spécialités. Il y en a une qui est spécialisée en sciences politiques et les deux autres en biologie et développement durable. Donc là, j'ai prévu de leur faire rencontrer des spécialistes régionaux de ces questions pour qu'elles puissent au moins connaître ce qui se fait à Strasbourg dans ce domaine, voire plus si affinité, hein, ça leur appartient. Et donc oui, effectivement, j'espère que ça leur ouvrira aussi des horizons. Parce que pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est que Strasbourg est complètement absent des radars de cette université qui pourtant a des partenariats avec Bordeaux, avec Lille, avec Paris, avec Lyon. Donc oui, Strasbourg, bah, j'espère que si on peut apporter une petite pierre là, dans cette liaison, je serai ravie.
Pour nos auditeurs qui auraient envie d'entendre un concert des voix de Strasbourg accompagnées de ces trois jeunes filles, quelle est la tournée, quel est l'itinéraire que vous allez emprunter ces prochaines semaines ?
Alors, le premier concert en fait, que nous donnerons, ce sera mercredi prochain, le 8 février, au Munsterhof à 20h. Il y a une billetterie en ligne, on peut trouver toutes les infos, je pense, sur votre radio, peut-être en off, ou alors sur le site de Voix de Strasse. Nous serons aussi dans la vallée de Villers le vendredi 10 février, à 20h aussi à Breitenbach, dans l'église de Breitenbach. Ensuite, nous partons à Paris, à la Cour des Comptes. Ça, c'est un concert sur invitation. Il y en a avant quelques moments aussi pour des gens qui ont soutenu le projet, qui invitent des soirées. Et puis, les voix de Strasse seront à Kiel, mais les chanteuses asiatiques seront reparties. Nous serons à Kiel le 3 mars, à l'église Sancta Maria.
Catherine Bolsinger, merci infiniment.
Merci à vous.
Selvam Torres, conseiller spécial Asie-Europe, donc de cette université du Bangladesh. Quelle est votre fonction, vous, au sein de cette université ? Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas ?
Oui, alors moi, j'avais d'abord été engagé par l'ambassade de France pour diriger l'Alliance française de Chittagong. Et c'est dans ce cadre-là l'Alliance française de Chittagong, qui est à quelques rues de l'université. Et les étudiantes m'ont appelé un jour. Parce qu'elles avaient entendu parler que j'avais une expérience musicale et elles m'ont appelé pour prendre en main le chœur de l'université. Voilà, donc pendant quelques années, j'étais directeur de l'Alliance française et en parallèle, je dirigeais le chœur de l'université. Et quand j'ai quitté l'Alliance française, l'université m'a demandé de rejoindre son équipe pour à la fois prendre vraiment en main continuer ce que je faisais, le travail vocal et choral que je faisais avec les étudiantes. Et également pour donner des conseils stratégiques pour l'université, pour que les relations avec l'Europe, avec les institutions européennes, soient plus denses et plus fructueuses. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Qu'est-ce qui vous touchez le plus ? C'est effectivement la formation musicale de ces jeunes femmes. C'est cette émancipation qui forcément arrive avec les études. C'est de les élever ? Ou est-ce que c'est forcément les deux intimement liés ?
Oui, c'est les deux, mais c'est vrai que du coup, nous, on a créé en quelque sorte un peu un groupe, une communauté dans l'université qui rassemble toutes ces étudiantes qui chantent avec nous. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de leur apporter quelque chose de complémentaire par rapport à l'académique, à l'enseignement académique, qui est un enseignement donc plus culturel, plus artistique, bien sûr, plus physique aussi, puisque comme j'expliquais souvent, il y a ce rapport au corps, au souffle, à la respiration. Et donc ça a un impact vraiment sur leur processus de maturité et comment ces femmes qui viennent de villages ou qui viennent de familles pauvres peuvent progressivement avoir confiance en elles, meilleure confiance en elles, et s'imposer face à un monde qui est quand même très masculin. Elles ont un peu la double peine, parce que d'une part, c'est des femmes, et d'autre part, elles viennent de milieux pauvres. Donc il y a un peu ces deux handicaps, en quelque sorte. Et donc l'idée, c'est par le chant, par l'enseignement vocal, artistique, on leur donne des outils qui puissent les porter plus haut, quoi.
Comment est-ce que des femmes issues de cultures religieuses où on ne chante pas depuis des générations et des générations se découvrent déjà de retrouver ce plaisir de chanter, de faire une oreille qui n'a jamais été formée à la musique?
Alors ça, c'est une vraie question parce que, par exemple, l'université accueille 350 étudiantes afghanes et dans le cœur de l'université, il y a à peu près, on a une petite dizaine d'étudiantes afghanes et certaines me disaient, avant de venir au cœur de l'université, je n'avais jamais chanté. C'est même pas chanter dans un chœur ou chanter en public, c'est ne l'avoir jamais pratiqué une chanson, même pour soi, dans sa salle de bain, comme on dit. C'était quelque chose de complètement nouveau. Et elles se découvrent, bien sûr, des capacités, mais elles se découvrent aussi un plaisir. Et elles découvrent que le chant leur apporte beaucoup. Donc ça, c'est une des dimensions avec lesquelles on doit vraiment prendre en compte. On part de zéro, on part vraiment de zéro sur la voix. La voix chantée et pas seulement parler. Donc ça, c'est vraiment un vrai travail très intéressant de les prendre par la main en leur disant, voilà, tu peux chanter, tout le monde peut chanter, toi aussi, même si dans ton pays, c'est pas autorisé, même si ta famille ou ta mère, ta grand-mère n'ont pas eu cette possibilité, toi, tu l'as, donc vas-y, saisis la chance. Ouais.
Ces jeunes femmes, alors là, vous parliez des jeunes femmes afghanes, elles ont vocation à rentrer dans leur pays après leur cursus universitaire?
Et bien sûr, c'est une question délicate parce que, de manière générale, oui, le principe, c'est que, je vais dire que sur les 1200 ou 1400 étudiants de l'université, une majorité va s'arrêter après avoir une licence, parce qu'une licence en Asie a plus de valeur qu'en Europe, qu'en France. Nous, on doit aller jusqu'au master, mais quand elles ont une licence, elles trouvent déjà un emploi. Donc la majorité va s'arrêter et travailler. Une petite minorité, beaucoup plus, plus motivée et qui aura aussi plus de chances, va pouvoir aller en master. Mais toutes ont vocation à rentrer dans leur pays, sauf les Afghanes qui pour le moment ne peuvent pas rentrer. Et donc il y a des formules qui sont mises en place pour leur permettre d'intégrer des agences des Nations Unies ou des ONG au Bangladesh ou ailleurs ou au Pakistan pour qu'elles puissent continuer à travailler pour leur pays. Mais c'est vrai que de manière générale, ce qu'on leur enseigne, c'est on leur dit pas vous allez avoir des études de haut niveau, une formation de haut niveau pour pouvoir émigrer. Vous allez avoir des études de haut niveau pour travailler à changer la donne dans votre propre pays. Et ça, c'est très fort. Ça, il y en a aucune qui me dit moi j'étudie et après je vais m'installer aux États-Unis ou au Canada. Non, jamais. Jamais.
Et quels sont les différents programmes que vous menez en direction des étudiantes?
Oui, alors nous, on essaye vraiment de participer à cette révolution, en quelque sorte, que l'université porte au sein des sociétés asiatiques, et en particulier dans les pays à majorité musulmane, comme le Pakistan, le Bangladesh, le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan. Et parmi les projets qu'on porte, c'est qu'on fait une formation en judaïsme. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. J'ai découvert que l'université était la seule université au Bangladesh et probablement dans le monde musulman où les étudiantes peuvent lire et étudier la Torah dans la bibliothèque. Et donc j'ai décidé de renforcer ce programme en leur donnant un véritable enseignement sur la culture juive. Alors, on s'est beaucoup appuyé sur la personnalité de Simone Veil. Donc là, je mène un travail avec une étudiante afghane sur voilà, qui est Simone Veil, ce qu'elle a apporté aux femmes dans le monde, etc. Premièrement. Deuxièmement, on ouvre aussi sur toutes les cultures, sur l'art en quelque sorte qui est né de cette culture juive, en particulier la musique. Donc là, on a pour un des prochains programmes, on va faire un kaddish, le kaddish de Pascal Amoyel. Alors moi, je trouve ça très émouvant de voir mes étudiantes musulmanes chanter le kaddish avec autant de ferveur. Et on va faire un travail important sur la Shoah, parce que c'est le grand oublié, l'événement vraiment oublié de la culture. Et de la connaissance, je dirais, en Bangladesh, au Pakistan, etc. Au mieux, elle n'est pas connue, au pire, elle est niée. Donc là, on a un vrai travail à faire et on va le mener avec les étudiantes. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est vraiment parmi les programmes qu'on mène en parallèle de la musique, etc. C'est un des grands axes. Et il faut dire, par exemple, que le nouveau campus de l'université sera construit par un cabinet israélien. Cabinet d'architecture israélien, alors que il n'y a pas de relation diplomatique entre le Bangladesh et Israël. Donc il y a vraiment des... Voilà, l'université, c'est un lieu où on peut tout se permettre pour changer les choses.
C'était Selvam Torres, le conseiller spécial de l'université de Chittagong.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.